L'un des objectifs de Dieu dans le désert, c'est de forger des adorateurs. Frères et sœurs, les adorateurs que le Père demande, ceux qu'il recherche, ne sont pas formés, ils ne sont pas construits, je parle de construction de vie intérieure, nous ne sommes pas forgés, nous ne sommes pas construits dans les moments où tout va bien, dans le petit fleuve tranquille avec la petite brise légère, le petit hamac et les pétales de rose. Merci Seigneur pour tous ces moments où on l'a chanté, où la vie nous sourit. Merci Seigneur. Mais c'est pas dans ces moments-là que je deviens plus fort. C'est pas dans ces moments-là que je me bats et c'est pas dans ces moments-là que je deviens plus fort. Je deviens plus fort, je suis forgé dans ma foi. Dieu me construit en tant qu'adorateur dans les déserts, dans les tempêtes, dans l'adversité, dans les trahisons, dans les oppressions, dans la difficulté, dans les problèmes de toutes sortes. C'est là que Dieu me forge et qu'il me construit. C'est son école, c'est, excusez-moi, c'est sa forge, c'est son usine. Il nous fait rentrer là-dedans, nous rentrons, nous passons dans certaines fournaises, quelle que soit leur forme, et quand nous en ressortons, nous sommes de vrais adorateurs. Ça, c'est l'usine de Dieu, excusez-moi l'expression. On lit Exode 14, et puis ensuite, on va développer toute cette pensée ensemble pendant quelques instants. Exode 14, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël « Ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte, donc à Pharaon, que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, mais qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. Verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit nécessaire de nous mener ici au désert pour mourir ? Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là, en Égypte, que nous te disions, laisse-nous servir les Égyptiens, nous aimons mieux servir les Égyptiens, c'est-à-dire être esclaves, plutôt que de mourir libres dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après vous. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de l'Éternel, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. effectivement, ils ont traversé la mer à sec. Et puis, lorsque Pharaon et toute son armée se sont engouffrés dans cette brèche, Dieu a refermé les eaux sur eux. Et le peuple, effectivement, n'a plus jamais entendu parler des Égyptiens. Déjà, un désert, c'est éprouvant. C'est oppressant. Quand vous lisez d'autres récits dans l'Écriture, vous vous apercevez que les tempêtes aussi sont synonymes d'épreuve. Les tempêtes, c'est aussi oppressant. Quand vous lisez d'autres récits, vous voyez qu'il y a des périodes de nuit, de sombres vallées, d'adversité. La nuit, les ténèbres sont aussi oppressants. Et il y a aussi des psaumes et d'autres récits dans la Bible qui nous parlent de nos ennemis, qui nous en veulent, qui nous oppressent. Et là aussi, c'est oppressant. Alors quand on a un désert ou des ennemis ou une sombre nuit ou une tempête, c'est pas drôle. Mais eux, ils ont eu la totale. Ils ont eu une tempête en plein désert, en pleine nuit, avec des ennemis derrière eux. Ils ont eu un désert, une tempête dans le désert, en pleine nuit, avec des ennemis derrière eux. Excusez-moi l'expression, mais ils ont eu la totale. Mais trêve de plaisanterie. Il n'y a pas des moments dans votre vie où, alors qu'il y a un domaine, un aspect de votre vie qui est très, très problématique, peut-être le plan professionnel, va s'ajouter avec ça, peut-être c'est normal, peut-être des soucis matériels ou financiers, vont s'ajouter à ça des problèmes familiaux, qui plus est peut-être un problème de maladie ou d'incertitude, le médecin commence à vous regarder avec un air sombre et relie plusieurs fois vos radios, et il y a plusieurs choses qui sont là, et il y a des moments, il n'y a pas qu'un seul problème, on peut faire face à 2, 3 problèmes, 4 problèmes en même temps, et dès ces moments-là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, où es-tu? Et là, il y a cette pensée inconsciente, on y passe tous, on est humain, où on s'est dit, et si on ne se l'est pas dit, le diable était très fort pour nous la souffler, si c'est pour être comme ça, à quoi ça sert que tu sois devenu chrétien? En d'autres termes, ça sert à rien de venir mourir dans ton désert, il valait mieux rester esclave de ton péché en Égypte. C'est ça que ça veut dire. Alors, comme je l'avais expliqué dans d'autres réunions, évidemment, le doute, on y passe tous. Mais le doute, il doit être traité par la parole de Dieu. Nous devons veiller sur nos paroles, sur nos pensées, parce que le doute, s'il n'est pas traité, il va se transformer en incrédulité. Avoir des moments de défaillance, même les plus grands dans la Bible, ils en ont eu. Avoir des moments de doute, même les plus grands dans la Bible, ils en ont eu. Par contre, on ne doit pas laisser le doute s'installer, parce qu'il va devenir incrédulité. Et les paroles malheureuses, si elles s'installent, vont devenir murmures. Alors, le peuple est là, il vient de sortir d'Égypte. Il a été, comme nous, d'une certaine façon, depuis que nous sommes chrétiens, il a été témoin de la puissance de Dieu. Les 10 plaies d'Égypte ont été une manifestation extraordinaire de puissance, une démonstration extraordinaire de la gloire, de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais même lorsqu'on est sorti d'Égypte, même lorsque vous êtes sorti de votre péché, de votre esclavage, tout ce qui triomphait de vous par la grâce de Dieu a été dominé, terrassé, vous êtes entré dans une vie nouvelle, vous êtes sorti de l'Égypte, vous êtes sorti de votre ancienne vie, mais comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est pas pour autant que tout est réglé. Et nous passons les uns et les autres par des déserts, parce que Dieu veut avec nous une relation privilégiée. Dieu veut une relation d'amour, il veut une relation de passion. Dieu veut pas seulement faire des miracles, Dieu veut être. Il veut pas seulement me donner des bénédictions, il veut être ma bénédiction. Et ce que Dieu recherche, et c'est pour ça que à partir du moment où ils sortent d'Égypte, les tests de foi ont commencé et se sont enchaînés les uns après les autres, comme nous dans nos vies, parfois des tests de foi s'enchaînent, parce que je vous l'avais déjà expliqué, ce sont autant de tests, autant de marches qui nous permettent de monter plus haut. Les épreuves, les adversités, les déserts, les tempêtes, sont là pour nous forger, pour nous construire. Vous, vous êtes peut-être à un certain niveau de la vie avec Dieu, vous êtes là, peu importe. Et on aimerait bien monter plus haut, aller plus haut avec Dieu, on est sincère, on dit « Ah Seigneur, j'aimerais bien, j'aimerais tellement mieux t'aimer, j'aimerais mieux te connaître. Seigneur, je voudrais tellement avoir la foi, cette dimension, je vois le frère, la sœur, là, ils vivent des choses que moi je vis pas. Seigneur, donne-moi ça !» Et nous, dans notre tête du XXe siècle occidental, on a la petite pensée inconsciente intérieure que on va appuyer sur le bouton de l'ascenseur avec la prière magique du mardi soir et que d'un seul coup, le lundi matin, ouf, j'ai monté d'un cran. Non, l'ascenseur de la foi, ça n'existe pas. Je connais par contre l'escalier de la foi. Et chaque épreuve, chaque désert, chaque adversité vont être l'occasion dans la pédagogie divine, dans la pensée de Dieu, de m'emmener plus loin. Chaque épreuve, chaque adversité devienne un marchepied pour que je puisse connaître Dieu de façon pratique, concrète, intime, personnelle, et que Dieu devienne vraiment quelqu'un, qu'il devienne mon Dieu, qu'il devienne ma bénédiction, qu'il soit quelqu'un vraiment pour moi, et pas seulement un faiseur de miracles. Pas seulement le Dieu qui m'a sorti d'Égypte. Et Dieu cherche en réalité des adorateurs. Tu adoreras. Adorer, c'est l'aspect fondamental de notre relation avec Dieu. J'ai pas le temps de le développer ce matin. Vous regardez la Bible en long, en large, en travers. Tout est plus ou moins une histoire d'adoration. L'adoration, même si on vit des temps forts dans la louange avec Dieu, l'adoration, votre vie d'adorateur, vous la mesurez pas ici. Votre vie d'adorateur, vous la mesurez dans les circonstances pratiques de votre vie. C'est pas là que ça se passe. C'est demain, c'est dehors, dans votre adversité. Et Dieu cherche des adorateurs, c'est-à-dire des gens qui vont manifester pour lui, des enfants qui vont manifester pour lui un amour ardent. Je l'aime tellement que je vais compter, je vais m'appuyer sur lui, je vais dépendre de lui. C'est quelqu'un sur qui je vais tout miser. Seigneur, je t'adore. Et parce que j'ai cette dimension d'amour, parce que je compte sur lui, parce que ma foi, c'est du béton armé, la foi est liée à l'adoration, ma vie, par conséquent, va lui être entièrement livrée. L'adoration, c'est quoi? C'est pas un sentiment mystique du dimanche matin. Une vie d'adoration, c'est une vie qui soit entièrement livrée. Une vie qui soit totalement abandonnée entre les mains de Dieu. Et Dieu a toujours voulu, avec son peuple, faire passer son peuple d'une dimension où sa relation avec lui c'était fait, donne, nourrit, délivre, guérit, exauce, bénit, débarrasse-nous de ci, débarrasse-nous de ça, de les amener dans une véritable relation d'adoration, de confiance. Une vie totalement abandonnée, c'est une confiance aveugle, une obéissance inconditionnelle à la personne de Dieu. Je reviens pas sur sa nature et sur le fait de ce que nous avons vu la semaine dernière, à quel point sa nature, ce qu'il est et ce qu'il a fait, mérite toute notre confiance. Et je pèse le mot « confiance aveugle, obéissance inconditionnelle ». Souvenez-vous, on l'a vu la semaine dernière, Dieu a largement fait ses preuves. Et ça, ça lui revient de droit. Il le mérite. Et ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs, les adorateurs que le Père demande. Jésus dans le désert répond au diable dans une des trois tentations. Je vous ai mis Matthieu 4, Luc 8. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Voilà l'aspect fondamental de ma relation avec lui. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que naturellement, en tant qu'être humain, nous sommes des adorateurs. Les créatures que nous sommes sont faites pour se prosterner, pour dépendre de quelqu'un. Les créatures que nous sommes sont faites pour adorer. Il y aura forcément toujours quelqu'un sur un piédestal, quelqu'un que tu vas considérer, que tu vas adorer, quelqu'un sur qui tu vas miser, quelqu'un à qui tu vas faire plus confiance qu'à d'autres. Il y a forcément cette dimension parce que c'est ma nature, c'est ma condition, c'est dans mes gènes, c'est dans mon ADN. Je suis fait, je suis programmé, je suis né pour adorer. Et il y aura sur le trône de mon cœur, il y aura forcément quelqu'un ou quelque chose. Ce sera votre maison, ce sera votre argent, ce sera vos enfants, ce sera votre femme, ce sera, je sais pas, votre carrière, ce sera vos loisirs. Vous mettrez, vous peut-être, vous-même, ou Dieu, mais il y aura forcément toujours quelqu'un sur le trône de votre cœur. Et Dieu veut que ce soit absolument lui qui soit sur le trône de mon cœur, parce que si c'est pas lui, je suis en danger. Vous savez, frères et sœurs, la création nous parle beaucoup. Et si Dieu a placé le soleil, Jésus est le soleil de justice dans la Bible, si Dieu a placé le soleil au centre de l'univers, c'est pas pour rien. La relation entre le peuple et Dieu elle est mal orientée, elle est mal fondée. C'est-à-dire que pour eux, comme pour nous, ça nous arrive bien souvent, Jésus n'est pas le centre. On chante souvent ce chant « Jésus soit le centre ». Il n'est pas le centre de notre univers. Le centre de l'univers, c'est le soleil. Et tout le reste gravite autour de lui. Le problème, c'est que bien souvent, nous avons d'autres centres. Vous mettez ce que vous voulez au centre. Chacun pour soi, mais il y aura forcément quelqu'un ou quelque chose au centre. Et Dieu, malheureusement, devient un satellite. Plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Mais le problème, c'est que tant que Dieu n'est pas le centre, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Et dans le désert, ce que Dieu veut absolument, c'est renverser cette relation et amener son peuple à le mettre au centre, afin qu'il dépende de lui et de lui seulement, et de rien d'autre. Est-ce qu'on peut être conscient que tout ce dont nous dépendons, mettez ce que vous voulez, tout ce dont vous dépendez vous met en danger. Tout ce sur quoi vous comptez, vous misez, vous appuyez, vous adorez, vous adulez, vous êtes prêt à faire des sacrifices, parce qu'on n'est pas que des adorateurs, on est des sacrificateurs dans l'âme. Tout ce qu'on est prêt à sacrifier, forcément, ça me met en danger. Le seul qui ne s'effondrera jamais, c'est Dieu. Merci Seigneur, il m'a donné une épouse super. Si un jour elle s'effondre, vaut mieux pas que je sois appuyé sur elle, parce que je m'effondrerai avec. Quand ta carrière, tes loisirs, quand tes gamins que tu as adorés, quand ce que tu veux, ça s'effondre parce que tôt ou tard, vous le savez, tout s'effondre, tout passe, rien ne dure. Je m'effondre avec. Et c'est un acte, je vous l'ai dit la semaine dernière, mettre son peuple dans le désert, c'est aussi de la part de Dieu un acte de bienveillance. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit en danger. Dieu veut que son peuple soit bien fondé dans cette relation de confiance, cette relation d'excellence. Mais ça, je l'apprends où ? C'est pas quand tout va bien que j'apprends à dépendre de Dieu. C'est quand tout va mal. C'est la pédagogie divine, c'est la pédagogie du désert. Mais je vous prends n'importe quel texte dans la Bible, je vous fais la même prédication. Ce sont des principes éternels. Alors, le désert va donc être le moyen pour Dieu de forger ses adorateurs. On va parler de façon très concrète. L'adorateur, celui qui aime Dieu d'un amour passionné, celui qui est prêt à tout miser, qui dépend, qui a une confiance aveugle, celui qui a une vie totalement abandonnée, concrètement, il fait quoi ? À quoi je le reconnais ? Puisque je vous ai dit que je ne vais pas le reconnaître là le dimanche matin. Vous allez vous identifier, vous, comme adorateur, dans les manques, dans les déserts de votre vie, dès demain. L'adorateur, il fait quoi ? C'est pas compliqué. Dieu a donné plusieurs paroles très simples au peuple. Il leur a dit, n'aie pas peur, reste en place, garde le silence, l'Éternel combattra pour vous, regardez la délivrance qu'il va vous accorder. Il a dit des choses très simples. À quoi je reconnais un adorateur ? L'adorateur, parce que justement, il s'est entièrement livré, qu'il dépend totalement de Dieu. Il est comme un enfant dans les bras de son père, même dans les déserts, même dans le manque, même dans l'oppression. Il rejette l'inquiétude. Mes frères et sœurs, si vous avez de l'inquiétude dans votre cœur, ça peut arriver, c'est comme le doute. On en a tous. Mais le doute, si je ne le traite pas, devient incrédulité. Les paroles malheureuses, si je ne les chasse pas, s'installent et deviennent murmures. L'inquiétude, si je ne la traite pas, elle va finir par me tuer. Et dans ce combat, frères et sœurs, vous le savez, l'inquiétude, c'est une mangeuse de foi. Elle grignote la foi. Et dans les déserts, dans les manques, dans les adversités, vous n'avez que deux solutions. Jamais trois, toujours deux. Le système binaire, souvenez-vous, la dualité. Soit vos inquiétudes vont triompher de votre foi, soit c'est votre foi qui va finir par triompher de vos inquiétudes. Mais c'est l'un ou l'autre. Et c'est important dans ces moments-là. Qu'est-ce qu'il fait l'adorateur ? Il garde une bonne vision de Dieu. Je le considère lui et non pas les circonstances. Ça s'appelle garder une bonne vision de Dieu et de mes circonstances. Il y a des gens, ils ont un petit Dieu et des grands problèmes. Et d'autres, ils ont un grand Dieu et des petits problèmes, quelle que soit leur nature. Est-ce que j'ai une bonne vision de Dieu ? Vous savez, je suis myope. Si je sors sans mes lunettes, c'est une catastrophe. Je ne vois rien. Je ne comprends rien. Je n'assimile rien. Là, vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes super et tout. Et là, je peux pas vous expliquer, pour être pas trop méchant, vous ressemblez à rien. Mais alors, à rien. Je comprends pas qui est qui fait quoi, qui est où, et je comprends rien du tout parce que tout est flou. Et vous voyez ce que fait le travail de la peur. Pourquoi le Seigneur a dit, la première chose qu'il a dit à son peuple, c'est « n'aie pas peur ». Parce que la peur, c'est comme d'être hypermétrope ou d'être myope spirituellement parlant. La peur, elle va déformer les choses. Elle va donner à mes circonstances un aspect beaucoup plus terrifiant et plus grand qu'est-ce qu'elles ne sont en réalité. Elle va donner à l'ennemi de mon âme, au diable, une puissance, une grandeur plus qu'en réalité. Et j'ai besoin, c'est pour ça qu'il faut que je sois redressé au niveau de ma vue, il faut que je sois corrigé au niveau de ma vue, et il faut que en permanence, c'est pas une fois de temps en temps, il faut que en permanence, je peux pas sortir de la maison sans avoir mes lunettes sur le nez, il faut qu'en permanence, ma vue soit constamment corrigée. Il y a quelques années de cela, j'étais en Normandie, et je commence à faire des migraines ophtalmiques. Ça fait un mal. Pendant des mois et des mois, j'ai prié Dieu. Pendant des mois et des mois, j'ai cherché. Je comprenais même pas pourquoi Dieu permettait que je passe par là. Il fallait que je fasse les visites, que je m'occupe de l'église. Mon beau-père était malade. Il était pas opérationnel et j'avais des maux de tête. Ça passait pas. Et puis un jour, mon médecin, alors que je lui dis, j'ai des migraines, je comprends pas. Il me dit, vous avez pensé à faire corriger votre vue? Vos lunettes, vous les avez vérifiées récemment? Je lui dis, mais quel rapport? Je lui dis, ça n'a aucun rapport. D'ici, ça s'appelle des migraines ophtalmiques. Vous voyez tellement mal que vous en avez mal au crâne. Et vos yeux sont toujours en train de faire des efforts, vous ne vous reposez pas. Je dis, ah bon, je vais voir l'ophtalmo. L'ophtalmo, il me dit, ah monsieur, vous avez perdu un dixième dans chaque œil. Ah ouais, il m'a mis des nouvelles lunettes, j'ai plus mal à la tête. Dans la vie spirituelle, frères et sœurs, c'est la même chose. Excusez-moi, je vais le dire ainsi, hein, sans ces lunettes, ce que sont la parole de Dieu, qui vont me donner en permanence, qui vont en permanence ajuster, redresser, corriger ma vision de Dieu, ma vision de l'ennemi, ma vision des circonstances, ma vision des autres, ma vision de tout ce qui peut se passer autour de moi. Si j'ai pas une bonne vision, la parole de Dieu me donne la foi, elle est mes lunettes, elle me donne de me corriger, sans ça tout est flou. Tout est difforme. Ça ressemble à rien, ça veut rien dire. Je reconnais pas la main de Dieu dans mes circonstances. Mais quand je suis branché avec Dieu en tant qu'adorateur et que sa parole me donne une vraie dimension de foi, quand je suis vraiment connecté, la parole, elle corrige constamment, elle ajuste constamment ma vision spirituelle des choses, des gens, des temps, de l'ennemi, des circonstances, du monde, de l'église, etc., etc., etc. L'adorateur, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il rejette la peur, l'inquiétude. N'aie pas peur, c'est la première chose que Dieu a dite. Il faut absolument que tu gardes une bonne vision de Dieu. La parole me garde toujours en permanence. Et dans mon cœur, je considère, dans l'adversité, que Dieu est sage. Oui, t'es dans la panade, Dieu reste sage. Dieu est souverain. Peu importe ce qui t'arrive, ça ne te serait jamais arrivé si Dieu ne l'avait pas vu et permis. Dieu reste souverain. Et tout ça, ces réalités qui ne sont pas dans ma tête, mais dans mon cœur, ces réalités, elles calment mon âme. Elles m'évitent de m'agiter parce que je sais que Dieu est sage. Dieu est sur son trône. Dieu est souverain. Je sais que rien ne peut ébranler son trône. Je sais que rien ne peut l'inquiéter. Je sais que tout ce qui est arrivé, il l'avait vu. Il l'a permis. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est amour. Je sais qu'il ne me traite pas selon mes péchés, psaume 103. Je sais qu'il reste toujours capable, le Tout-Puissant, El Shaddai. Et tout ça, jamais au grand jamais, je ne le remets en question. Parce que le murmure, on l'avait vu dans d'autres messages, le murmure, c'est une remise en question de la nature de Dieu. Et c'est ça le vrai problème qui a enterré les Hébreux dans leur désert. La parole de Dieu me donne une bonne vision, une bonne perspective. Et Dieu me permet de voir les choses comme des opportunités. Comment tu vas devenir plus fort sans combat? Le combat est une opportunité, ça me plaît pas, mais c'est une opportunité. Là où nous voyons des problèmes, Dieu voit lui des opportunités. Le peuple disait, ah, il y a Pharaon qui nous oppresse, qui court derrière nous. Et Dieu dit, ben, ça tombe bien, ça va être une occasion de faire éclater ma gloire. Comment tu vas connaître Dieu si tu ne le vois jamais intervenir dans ta vie? Comment tu sais qu'il s'appelle Yahvé Jiré si tu n'as jamais eu de problème de fin de mois? Si tu n'as jamais été au chômage? Comment tu sais qu'il s'appelle Yahvé Rapha si tu n'as jamais été malade? Comment tu peux savoir tout ça avec ta tête ou dans une expérience concrète et pratique? Et dans chaque situation, Dieu, il voit des occasions, des opportunités. Dieu voit des possibilités. Nous, on voit des impossibilités. Lui, il voit des possibilités. Nous, on voit une fin, on voit le désert, la tempête, ça sent la mort, ça sent le cimetière, on voit la fin. Dieu, lui, voit un commencement, il voit un début. Quand vous prenez une graine, vous voyez une graine. Et Dieu, lui, voit un arbre. Dieu est comme ça, il pense comme ça. Et ce qui va être salutaire pour moi, c'est de commencer à penser comme Dieu pense, de raisonner comme il raisonne, de voir comme il voit, d'avoir une bonne vision de lui et de ce qu'il fait. Ensuite, Dieu a dit quelque chose de très simple. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que si tu t'agites, de toute façon, tu vas faire n'importe quoi et tu vas dire n'importe quoi. La deuxième chose que Dieu dit, c'est lié. Qu'est-ce qu'il fait l'adorateur? L'adorateur, il reste dans la foi au pied de son Seigneur et il garde de bonnes positions spirituelles, des positions qui sont conformes à la parole écrite et révélée. Si Moïse n'avait pas dit au peuple « Taisez-vous, n'ayez pas peur, ne craignez rien, restez en place », ils seraient retournés en arrière et ils auraient fait un pacte avec Pharaon et ils auraient signé. Ils auraient fait n'importe quoi. Même si tu passes par le danger, on parle de désert, de tempête, de manque, d'oppression, de risque. Oui, ok, d'accord. Même si tu passes par le danger, avec Dieu, tu passes par le danger, mais tu n'es pas en danger. Vous faites la différence? De passer par le danger, mais de ne pas être en danger, parce qu'il est là. Et quand vous faites bien attention au texte, on l'a lu, c'est au verset 19 et 20, on s'aperçoit que Dieu, par sa présence, pendant toute cette nuit de tourmente, toute cette nuit où le vent impétueux a soufflé, où les armées de Pharaon campaient d'un côté, et puis ensuite, de l'autre côté de la nuée, il y avait le peuple qui était pris entre la nuée et la mer, etc., etc., on voit qu'il y avait cette colonne. Et il nous est dit que les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Parce que la présence de Dieu les a gardés, les a protégés. Amen. Et même si tu passes par le danger, tu n'es pas en danger. Parce qu'il est là. Il éclairait côté hébreu et c'était sombre côté égyptien. Et ils ne les ont absolument pas touchés. Ils étaient là. Ça sentait la mort. Il y avait une sérieuse menace. C'était hyper oppressant. On en est conscient. Mais en vérité, pas une seule flèche de l'armée égyptienne n'a passé la colonne de feu, la colonne de nuée, pas une seule flèche n'a atteint les Hébreux, il ne s'est rien passé, il y avait une séparation. Dieu était là, les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre. Reste en place, garde des bonnes positions spirituelles, ça signifie pas d'abandon, pas de compromis, pas de retour en arrière, reste en place. L'adorateur, il garde ses positions devant Dieu, et il attend patiemment la délivrance que Dieu va lui accorder. Conserve de bonnes positions spirituelles. Tiens, avant d'aller plus loin, quand même, vraiment un exemple pour être concret. Un jour, une jeune fille est dans un désert professionnel, c'était dans une autre église, désert professionnel, donc difficulté pour trouver un logement, donc n'ayant pas beaucoup de ressources, problème de fin de mois, etc., etc. Elle trouve un petit boulot qui est vraiment pas terrible. Elle vend des espèces de machines, d'objets high-tech, je sais pas quoi, par téléphone. Et puis la jeune fille, elle est vraiment chrétienne et elle adore Dieu et pour elle, Dieu compte plus que tout. Donc, au téléphone, elle ne fait pas comme ses collègues, au téléphone, elle ne ment pas. Elle ne ment pas sur le produit. Mais comme elle ne ment pas sur le produit, la camelote devient invendable. Donc, c'est elle qui vend le moins. Elle était en CDD. Parce que maintenant, il n'y a que des CDD. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plein de CDD. Comme ça, on n'est pas parlé pour parler de ça. Elle a plusieurs CDD. Le patron l'a fait venir. Et il lui dit, dites donc, mademoiselle, vous m'expliquez comment ça se fait que vous êtes la plus mauvaise de toutes mes vendeuses? Elle dit, ben oui, monsieur le directeur, je suis navrée. C'est parce que la vérité, c'est que votre produit, c'est de la camelote et c'est invendable. Comment ils font les autres pour vendre? Ben, ils mentent. Et vous, mademoiselle, pourquoi vous pouvez pas en faire autant? Ah non, c'est pas possible parce que je suis chrétienne. Et je ne mentirai pas. Écoutez, vous allez pas me prendre la tête avec vos bondieuseries. Vous me vendez cette camelote ou le mois prochain, votre CDD il est pas renouvelé, vous dégagez. Moi, votre crise de morale, ça m'intéresse pas. Votre bon Dieu, j'en ai rien à cirer. Elle m'appelle, elle me dit, Stéphane, mon patron, il m'a mis un de ses savons. Je suis la plus nulle. Si jamais je ne mens pas, si je garde mes positions spirituelles, je vais me faire jeter, je vais me faire virer. Je lui dis, écoute, je sais une chose, c'est que Dieu ne bénit pas le mensonge. Je lui ai dit, garde tes positions, reste en place. Est-ce que Dieu va incliner le cœur de ton patron? Il peut. Est-ce que le mois prochain, tu vendras une meilleure camelote? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas te faire jeter et Dieu a un autre plan? Je ne sais pas. Je lui dis, mais si tu rentres dans une voie de compromis, tu retournes en Égypte, tu signes un pacte avec Pharaon, et là, je te garantis, tu vas passer quelques années qui vont être super compliquées à gérer, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Reste en place. Garde tes principes. Reste, adore Dieu. Un mois plus tard, avant de changer de CDD, le patron l'a fait revenir, il lui dit, dites donc, madame, je vois que ça n'a toujours pas augmenté, vos ventes. Non, patron, monsieur le directeur, je suis désolé, je suis chrétienne, et non, je ne mentirai pas. Ah, vous voulez pas mentir? Ben, vous prenez vos clics et vos claques, vous ramassez votre parda, et puis vous dégagez, parce que moi, le contrat, je vais le donner à quelqu'un qui s'embarrasse pas d'une morale comme ça. Elle est partie. Elle m'appelle. Ah ben là, il faut ça. Attendez. Et la foi précède le miracle. On va pas voir avant de, et ensuite croire. Non, on croit, on fait nos preuves, on démontre notre foi, et après Dieu agit. Ok? Ça marche dans cet ordre-là, pas autrement. Je lui dis, écoute, je sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que t'as bien fait de pas mentir et que Dieu va honorer ta foi. Comment? Ça, c'est son problème, il est Dieu. Mais ton problème à toi, c'est de garder des bonnes positions. 3 semaines après, le téléphone sonne. Elle avait un boulot 2 fois mieux payé, en CDI, pas très loin de, dans le quartier où était l'église. Elle prie Dieu. Elle bénit Dieu. 3 semaines plus tard, elle avait un appartement moins cher, mieux, à 500 mètres de l'église. Qu'est-ce qu'il fait l'adorateur? L'adorateur, il garde des positions qui sont conformes au royaume de Dieu. L'adorateur, il dit dans son cœur, j'aime Dieu plus que tout le reste. Pas de compromis. Une vie totalement abandonnée, c'est une confiance aveugle, une obéissance inconditionnelle à la personne de Dieu. Pas de compromis. Daniel, face à Nebuchadnezzar, c'est un adorateur. Il a dit, non, je ferai pas de compromis. Et on pourrait en citer. Joseph, il a dit, non, j'irai en prison, mais je coucherai pas avec toi. Et il a été en prison. Un adorateur, c'est quelqu'un qui garde les positions du royaume de Dieu. C'est un peu plus clair? Reste en place. N'aie pas peur, reste en place. Qu'est-ce qu'il fait l'adorateur? Il veille sur ses pensées et donc sur sa langue. Garde le silence. Vous savez, je vais très vite là-dessus, on en a plusieurs fois parlé, que notre langue, frères et sœurs, est un potentiel de vie ou un potentiel de mort. C'est un potentiel de foi, c'est un potentiel d'incrédulité. Il n'y a jamais, au grand jamais, de paroles anodines. Toutes nos paroles ont une importance. Toutes nos paroles ont des répercussions dans le monde spirituel. Et on sait que l'arme avec un A majuscule, c'est la parole. Si la façon dont vous parlez n'est pas conforme au langage de Dieu, vous fermez une porte à Dieu et vous ouvrez une porte à l'ennemi pour qu'il fasse ses œuvres. Mais si vous pensez comme Dieu pense, vous raisonnez comme Dieu raisonne, vous vous positionnez comme Dieu se positionne et vous parlez comme Dieu parle dans sa parole, vous fermez la porte à l'ennemi et vous ouvrez une porte à Dieu pour qu'il fasse ses œuvres. La vie et la mort, dit le livre des Proverbes, sont au pouvoir de la langue. Potentiel de vie, potentiel de foi, potentiel de mort, potentiel d'incrédulité. Murmurer, c'est fermer la porte à Dieu, et c'est ce qu'on avait vu, je ne reviens pas dessus, c'est entretenir son désert, ça c'était le deuxième message. L'adorateur, qu'est-ce qu'il fait puisqu'il a pris position? Ben, il attend patiemment l'action de Dieu. N'aie pas peur, reste en place, garde le silence. Regardez la délivrance. Le Seigneur n'a pas dit « Je vous délivre et ensuite vous allez prendre position. Je vous délivre et puis ensuite vous allez commencer à me louer. » Non, le Seigneur a dit « N'aie pas peur, reste en place, garde le silence. » Et ensuite, et c'est pas anodin que ça arrive en troisième position, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La délivrance vient après, ça fait partie de la rémunération de la foi. Le Dieu qui permet le désert saura aussi m'en sortir. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi nous, en tant qu'humains, insignifiants, incapables, on veut absolument gérer les déserts dans lesquels Dieu nous a fait entrer? Pourquoi est-ce que tu devrais gérer une tempête que Dieu, dans sa souveraineté, a permise? Depuis quand t'es un gestionnaire de désert ou de tempête? C'est humain, c'est plus fort que nous. On veut tout gérer, on veut tout contrôler, on veut tout prendre en main, on veut toujours s'en sortir, et le plus vite possible, c'est pour ça qu'on fait des compromis. On veut s'en sortir très vite, et voilà, on veut rien apprendre sur nous-mêmes, on veut rien apprendre avec Dieu, on veut juste sortir vite, vite, mais alors très vite. Et on essaye de tout gérer. La première chose que les disciples ont fait dans leur tempête, dans leur barque, c'est qu'ils ont essayé de tout gérer, de tout contrôler. Et c'est seulement quand ils se sont aperçus qu'ils n'y arriveraient pas et qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils ont été dire à Jésus, « Oh Seigneur, on est en train de mourir, et puis visiblement ça t'intéresse pas. » Mais non, vous n'êtes pas en train de mourir. Vous avez juste pas les yeux sur moi et vous voulez pas apprendre ce que je veux vous apprendre. Je veux vous apprendre la paix. C'est ça qu'il vous faut d'abord. Je ferme la parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on veut gérer des tempêtes que Dieu a permises? C'est lui qui va les gérer. C'est lui qui va m'en sortir. Le chemin, il est déjà tracé. La victoire, elle est déjà prête. L'issue, elle est déjà préparée, dit la Bible. Pourquoi tu t'agites? Si tu t'agites, t'es sûr que l'issue, tu la trouveras pas. C'est pour ça que Dieu dit, reste en place. Le Dieu qui permet le désert saura aussi m'en sortir. Le Dieu qui a permis une tempête sera bien assez grand pour la calmer tout seul. Quand même. L'issue est prête. Dieu sait ce qu'il veut faire et comment il veut faire. Le plan, il le sait, c'est lui. C'est lui qui a dit, je vais me servir de Pharaon, cette situation va servir à faire éclater ma gloire, je vais m'en servir, c'est moi qui vais ouvrir la mer, etc. Mais si le peuple avait fait un compromis qu'il était retourné en arrière, c'était plus la peine d'ouvrir la mer, hein. Le plan, il devenait caduque. L'issue est prête. Calme-toi. Dieu sait ce qu'il veut faire et comment il va le faire. Et ça, c'est ce qui fait que l'adorateur, il reste à sa place. Il bouge pas. Il reste auprès de Dieu. L'adorateur, il ne prie pas Dieu. Parce que bien souvent, on prie, c'est juste pour dire à Dieu ce qu'il faut faire. Il faut qu'il le fasse vite, mais alors très très vite, et puis qu'il le fasse comme ça et comme ça. Puis après on dit, mais je comprends pas, Dieu a rien fait. Ben, c'est pas qu'il a rien fait, c'est que si tu te calmais, il pourrait faire ce que lui, il a prévu. Oh, vous êtes content d'être venu ce matin. Dieu sait ce qu'il veut et comment il veut le faire. Ensuite, c'est logique, ça vaut dans nos situations familiales, ça vaut dans nos situations professionnelles, ça vaut dans tout plein de domaines. Ne te lance pas dans des combats qui te dépassent. Le peuple sortait d'Égypte. Ils avaient été esclaves pendant des siècles. Ils sont pas préparés, ils ont pas d'armes, ils ont pas de préparation militaire. C'est comme s'ils avaient pris des armes, ils avaient dit, on va pas faire de compromis avec l'ennemi, mais on va quand même se bagarrer. On va y aller avec nos pieux, nos haches, nos bâtons, on va démonter un char, on va prendre une roue, on va s'en servir comme lance-pierre, je ne sais pas. Dieu combat pour toi. Faudrait juste que tu te calmes et que tu te pousses parce que tu gênes, t'es dans le passage. Pousse-toi, dégage, pousse-toi, tu gênes. Pourquoi tu veux gérer des déserts qui sont trop grands pour toi? Des tempêtes qui sont trop grandes pour toi? Ici, c'est pareil. Pourquoi, frères et sœurs, on se livre, mais alors corps et âme, dans des combats qui sont stériles, qui sont vains? Ça passe encore très souvent, les combats, ils passent par la langue. On fait un usage qui n'est pas sage, qui est disproportionné, qui est démesuré de notre langue. Et on se lance dans des combats de langue, dans des tas de domaines. Et puis le Seigneur, il est là, il attend. On gêne, c'est nous qui faisons, vous comprenez? C'est nous qui faisons obstacle à l'œuvre de Dieu. C'est nous qui ralentissons son œuvre. C'est nous qui entravons le plan, parce que le plan, il était tracé depuis longtemps. L'Éternel combattra. C'est pas bien que ce soit l'Éternel qui combatte pour toi? Bon, moi, j'ai pas eu de frère. Mais il paraît que tous ceux qui avaient un grand frère, dans leur cour de récréation, quand ça commençait à chauffer pour eux, ils disaient, ah, laisse-moi tranquille, parce que sinon, je vais appeler mon grand frère. C'est vrai ou pas? Ou ma grande sœur? C'est ce qu'on faisait dans les cours de récréation. Il y a bien des combats dans la vie. Excusez-moi, hein. Au lieu de vous bagarrer puis de vous prendre une grande déconfiture, au lieu de vous battre et de prendre une grande défaite, appelez votre grand frère pour qu'il vous gère le truc. Oui ou non? Et puisque c'est l'Éternel qui combat, mais qu'est-ce qu'il fait l'adorateur? L'adorateur, il est dans une vie de foi. Il est dans une vie de louange, il est dans une vie de repos. Je me repose, oui, j'ai des problèmes, mais je suis dans le repos. Merci Seigneur, c'est toi qui gères. Et quand ces étapes, ces objectifs de Dieu sont atteints dans nos vies, on peut en sortir victorieux comme notre maître. Jésus est sorti du désert victorieux au bout de 40 jours et il n'en est pas mort au bout de 40 années. Alors, l'adorateur que Dieu cherche à construire en moi, l'adorateur que Dieu veut forger dans ce désert, doublé d'une tempête, triplé d'une nuit sombre et quadruplé d'un ennemi qui m'oppresse, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu cherche à me forger comme adorateur. L'adorateur, il va rejeter la peur et l'inquiétude. L'adorateur, il garde des positions spirituelles conformes au royaume de Dieu. L'adorateur veille sur ses pensées, sur sa langue. L'adorateur, il attend patiemment l'action de Dieu. Il regarde, il est émerveillé devant l'action de Dieu qui arrive. Il ne se lance pas dans des combats qui le dépassent, puisque c'est l'Éternel qui va combattre et qui va régler cette affaire. Enfin, l'adorateur, il sort victorieux de son désert, quelle que soit sa forme. Et frères et sœurs, peu importe votre désert aujourd'hui, c'est toujours comme ça que ça marche. Amen.